Le matin, chapitre 2. Otto. Un dimanche que Christophe avait été invité par son musikdirektor à venir dîner dans la petite maison de campagne que Tobias Pfeiffer possédait à 1 heure de la ville, il prit le bateau du Rhin. Sur le pont, il s'assit auprès d'un jeune garçon de son âge qui lui fit place avec empressement. Christophe n'y prêta aucune attention. Mais au bout d'un moment, sentant que son voisin ne cessait de l'observer, il le dévisagea. C'était un blondin aux joues roses et rebondies, avec une raie bien sage sur le côté de la tête et une ombre de duvet à la lèvre. Il avait la mine candide d'un grand poupon, malgré les efforts qu'il faisait pour paraître un gentleman. Il était mis avec un soin prétentieux, costume de flanelle, gants clairs, escarpins blancs, nœud de cravate bleu pâle, et il tenait à la main une petite badine. Il regardait Christophe du coin de l'œil sans tourner la tête, le cou raide comme une poule, et quand Christophe le regarda à son tour, il rougit jusqu'aux oreilles, tira un journal de sa poche et feignit de s'y absorber d'un air important. Mais quelques minutes après, il se précipita pour ramasser le chapeau de Christophe qui était tombé. Christophe, surpris par tant de politesse, regarda de nouveau le jeune garçon qui de nouveau rougit. Il remercia sèchement, car il n'aimait pas cet empressement obséquieux, et il détestait qu'on s'occupât de lui. Toutefois, il ne laissait pas d'en être flatté. Bientôt, il n'y pensa plus. Son attention fut prise par le paysage. Depuis longtemps, il n'avait pu s'échapper de la ville. Aussi jouissait-il avidement de l'air qui fouettait sa figure, du bruit des flots contre le bateau, de la grande plaine d'eau et du spectacle changeant des rives. Berges grises et plates, buissons de saules baignant jusqu'à mi-corps, ville couronnée de tours gothiques et de cheminées d'usines aux fumées noires, vignes blondes et rochers légendaires. Et comme il s'extasiait tout haut, son voisin, timidement, d'une voix étranglée, hasarda quelques détails historiques sur les ruines qu'on voyait, savamment restaurées et revêtues de lierre. Il avait l'air de se faire un cours à lui-même. Christophe, intéressé, le questionna. L'autre se hâtait de répondre, heureux de montrer sa science. Et à chaque phrase, il s'adressait à Christophe en l'appelant « Monsieur Hofvioliniste ».« Vous me connaissez donc ?» demanda Christophe. « Oh oui !» dit le jouvenceau, d'un ton de naïve admiration qui chatouilla la vanité de Christophe. Ils causèrent. Le jeune garçon voyait Christophe au concert, et son imagination avait été frappée par ce qu'il avait entendu raconter de lui. Il ne le disait pas à Christophe, mais Christophe le sentait, et il en était agréablement surpris. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui parlât sur ce ton de respect ému. Il continua d'interroger son voisin sur l'histoire des pays qu'on traversait. L'autre faisait étalage de ses connaissances toutes fraîches, et Christophe admirait sa science. Mais ce n'était là que le prétexte de leur entretien. Ce qui les intéressait l'un et l'autre, c'était de se connaître eux-mêmes. Ils n'osaient aborder franchement ce sujet. Ils y revenaient de loin en loin par de gauches questions. Enfin, ils se décidèrent, et Christophe apprit que son nouvel ami se nommait M. Otto Diener et était le fils d'un riche commerçant de la ville. Il se trouva naturellement qu'ils avaient des connaissances communes, et peu à peu leur langue se délia. Ils causaient avec animation quand le bateau arriva à la ville où Christophe devait descendre. Otto y descendait aussi. Ce hasard leur parut surprenant. Et Christophe proposa, en attendant l'heure du dîner, de faire quelques pas ensemble. Ils se lancèrent à travers champs. Christophe avait pris familièrement le bras d'Otto et lui contait ses projets comme s'il le connaissait depuis sa naissance. Il avait été tellement privé de la société des enfants de son âge qu'il sentait une joie inexprimable à se trouver avec ce jeune garçon, instruit et bien élevé, qui avait de la sympathie pour lui. Le temps passait, et Christophe ne s'en apercevait pas. Diener, tout fier de la confiance que lui témoignait le jeune musicien, n'osait lui faire remarquer que l'heure de son dîner était déjà sonnée. Enfin, il se crut obligé de le lui rappeler. Mais Christophe, qui s'était engagé dans une montée au milieu des bois, répondit qu'il fallait d'abord arriver au sommet. Et quand ils furent en haut, il s'allongea sur l'herbe, comme s'il avait l'intention d'y passer la journée. Après un quart d'heure, Diener, voyant qu'il ne semblait pas disposé à bouger, glissa de nouveau timidement « Et votre dîner ?» Christophe, étendu tout de son long, les mains derrière la tête, fit tranquillement « Zut !» Puis il regarda Otto, vit sa mine effarée et se mit à rire. « Il fait trop bon ici, » expliqua-t-il. « Je n'irai pas. »« Qu'ils m'attendent. » Il se souleva à moitié. « Êtes-vous pressé ?»« Non, n'est-ce pas ? » ?»« Savez-vous ce qu'il faut faire ? » ?»« Nous allons dîner ensemble. Je connais une auberge. » Diener aurait bien eu des objections à faire. Non que personne l'attendît, mais parce qu'il lui était pénible de prendre une décision à l'improviste. Il était méthodique et avait besoin de s'y préparer à l'avance. Mais la question de Christophe était posée d'un ton qui n'admettait guère la possibilité d'un refus. Il se laissa donc entraîner, et ils se remirent à causer. À l'auberge, leur feu tomba. Ils étaient préoccupés tous deux de la grave question de savoir qui offrait le dîner à l'autre. Et chacun, en secret, mettait son point d'honneur à ce que ce fût lui. Diener, parce qu'il était le plus riche, Christophe, parce qu'il était le plus pauvre. Il n'y faisait aucune allusion directe. Mais Diener s'évertuait à affirmer son droit par le ton d'autorité qu'il essayait de prendre en commandant le menu. Christophe comprenait son intention, et il renchérissait sur lui en commandant d'autres plats recherchés. Il voulait lui montrer qu'il était à son aise autant que qui que ce fût. Et Diener, ayant fait une nouvelle tentative, en tâchant de s'attribuer le choix des vins, Christophe le foudroya du regard et fit venir une bouteille d'un des crus les plus chers que l'on eut à l'auberge. Attablés devant un repas considérable, ils en furent intimidés. Ils ne trouvaient plus rien à se dire, et ils mangeaient du bout des dents, gênés dans leurs mouvements. Ils s'apercevaient brusquement qu'ils étaient des étrangers l'un pour l'autre, et ils se surveillaient. Ils firent de vains efforts pour ranimer la conversation. Elle retombait aussitôt. La première demi-heure fut d'un ennui mortel. Heureusement, le repas fit bientôt son effet, et les deux convives se regardèrent avec plus de confiance. Christophe surtout, qui n'était pas accoutumé à de pareilles bombances, devint singulièrement loquace. Il raconta les difficultés de sa vie, et Otto, sortant de sa réserve, avoua qu'il n'était pas heureux non plus. Il était faible et timide, et ses camarades en abusaient. Ils se moquaient de lui, ils ne lui pardonnaient pas de désapprouver leur manière commune, il lui jouait de méchants tours. Christophe serra les poings et dit qu'il ne ferait pas bon pour eux recommencer en sa présence. Otto était également incompris des siens. Christophe connaissait ce malheur, et ils s'apitoyèrent sur leurs communes infortunes. Les parents de Diener voulaient faire de lui un commerçant, le successeur de son père. Mais lui voulait être poète. Il serait poète quand bien même il devrait s'enfuir de sa ville, comme Schiller, et affronter la misère. D'ailleurs, la fortune de son père lui reviendrait tout entière, et elle n'était pas médiocre. Il avoua, en rougissant, qu'il avait déjà écrit des vers sur la tristesse de vivre, mais il ne put se décider à les dire malgré les prières de Christophe. À la fin, cependant, il en cita deux ou trois, en bredouillant d'émotion. Christophe les trouva sublimes. Ils s'admiraient mutuellement. Outre sa réputation musicale, la force de Christophe, sa hardiesse de façon en imposait à Otto. Et Christophe était sensible à l'élégance d'Otto, à la distinction de ses manières, tout est relatif en ce monde, et à son grand savoir, ce savoir qui lui manquait totalement et dont il avait soif. Engourdi par le repas, les coudes sur la table, ils parlaient et s'écoutaient parler l'un l'autre avec des yeux attendris. L'après-midi s'avançait, il fallait partir. Otto fit un dernier effort pour s'emparer de la note, mais Christophe le cloua sur place d'un regard mauvais qui lui enleva tout désir d'insister. Christophe n'avait qu'une inquiétude, c'était qu'on ne lui demandât plus que ce qu'il possédait. Il eût donné sa montre plutôt que d'en rien avouer à Otto, mais il n'eut pas besoin d'en venir là. Il lui suffit de dépenser pour ce dîner à peu près tout son argent du mois. Ils redescendirent la colline. L'ombre du soir commençait à se répandre à travers le bois de sapin. Les cimes flottaient encore dans la lumière rosée. Elles ondulaient gravement, avec un bruit de houle. Le tapis d'aiguilles vertes amortissait le son des pas. Il se taisait. Christophe voulait parler, une angoisse l'oppressait. Il s'arrêta un moment, et Otto fit comme lui. tout était silencieux. Des mouches bourdonnaient très haut dans un rayon de soleil. Une branche sèche tomba. Christophe saisit la main d'Otto et demanda d'une voix qui tremblait « Est-ce que vous voulez être mon ami ?» Otto murmura « Oui ». Ils se serrèrent la main. Leur cœur palpitait. Ils osaient à peine se regarder. Après un moment, ils se remirent en marche. Ils étaient à quelques pas l'un de l'autre et ils ne se dirent plus rien jusqu'à la lisière du bois. Ils avaient peur d'eux-mêmes et de leur mystérieux émoi. Ils allaient très vite et ne s'arrêtèrent plus, qu'ils ne fussent sortis de l'ombre des arbres. Là, ils se rassurèrent et se reprirent la main. Ils admiraient le soir limpide qui tombait, et ils parlaient par mots entrecoupés. Sur le bateau, assis à l'avant, dans l'ombre lumineuse, ils essayèrent de causer de choses indifférentes, mais ils n'écoutaient pas ce qu'ils disaient. Ils étaient baignés d'une lassitude heureuse. Ils n'éprouvaient le besoin ni de parler, ni de se donner la main, ni même de se regarder. Ils étaient l'un près de l'autre. Près d'arriver, ils convinrent de se retrouver le dimanche suivant. Christophe reconduisit Otto jusqu'à sa porte. À la lueur du bec de gaz, ils se sourirent timidement et se balbutièrent un au revoir ému. Ils furent soulagés de se quitter, tant ils étaient harassés de la tension où ils vivaient depuis quelques heures, et de la peine que leur coûtait le moindre mot qui rompit le silence. Christophe revint seul dans la nuit. Son cœur chantait « J'ai un ami, j'ai un ami ». Il ne voyait rien. Il n'entendait rien. Il ne pensait à rien d'autre. Il tombait de sommeil et s'endormit à peine rentré. Mais il fut réveillé 2 ou 3 fois dans la nuit, comme par une idée fixe. Il se répétait « J'ai un ami » et il se rendormait. Le matin venu, il lui sembla qu'il avait rêvé tout cela. Pour s'en prouver la réalité, il entreprit de se rappeler les moindres détails de la journée précédente. Il s'absorbait encore dans cette occupation pendant qu'il donnait ses leçons. L'après-midi, il était si distrait à la répétition d'orchestre que c'est à peine si, en sortant, il se souvenait de ce qu'il avait joué. De retour à la maison, il vit une lettre qui l'attendait. Il n'eut pas besoin de se demander d'où elle venait. Il courut s'enfermer dans sa chambre pour la lire. Elle était écrite sur du papier bleu pâle, d'une écriture appliquée, longue, indécise, avec des paraphes très correctes. « Cher monsieur Christophe, oserais-je dire très honoré ami, je pense beaucoup à notre partie d'hier et je vous remercie immensément de vos bontés pour moi. Je vous suis tellement reconnaissant de tout ce que vous avez fait et de vos bonnes paroles et de la ravissante promenade et du dîner excellent. Je suis fâché seulement que vous ayez dépensé tant d'argent pour ce dîner. Quelle superbe journée! N'est-ce pas qu'il y a eu quelque chose de providentiel dans cette étonnante rencontre? Il me semble que c'est le destin lui-même qui a voulu nous réunir. Comme je me réjouis de vous revoir dimanche. J'espère que vous n'aurez pas eu trop de désagréments pour avoir manqué le dîner de monsieur le Hofmusikdirektor. Je serais si fâché que vous eussiez des contrariétés à cause de moi. Je suis pour toujours, très cher monsieur Christophe, votre très dévoué serviteur et ami, Otto Diener. Postscriptum. Ne venez pas, s'il vous plaît, dimanche, me prendre à la maison. Il vaut mieux, si vous le permettez, que nous nous rencontrions au Schlossgarten. Christophe lut cette lettre, les larmes aux yeux. Il la baisa, il éclata de rire. Il fit une cabriole sur son lit. Puis il courut à sa table et prit la plume pour répondre sur le champ. Il n'aurait pu attendre une minute, mais il n'avait pas l'habitude d'écrire. Il ne savait comment exprimer ce qui lui gonflait le cœur. Il crevait le papier avec sa plume et noircissait d'encre ses doigts. Il trépignait d'impatience. Enfin, après avoir tiré la langue et usé 5 ou 6 brouillons, il réussit à écrire, en lettres difformes, qui s'en allaient dans tous les sens, et avec d'énormes fautes d'orthographe, « Mon âme, comment oses-tu parler de reconnaissance parce que je t'aime? Ne t'ai-je pas dit combien j'étais triste et seul avant de te connaître? Ton amitié m'est le plus grand des biens. Hier, j'ai été heureux, heureux. C'est la première fois de ma vie. Je pleure de joie en lisant ta lettre. Oui, n'en doute pas, mon aimé, c'est le destin qui nous rapproche. Il veut que nous soyons unis pour accomplir de grandes choses. Amis, Quel mot délicieux! Se peut-il que j'aie enfin un ami? Oh, tu ne me quitteras plus, n'est-ce pas? Tu me resteras fidèle? Toujours, toujours. Comme il sera beau de grandir ensemble, de travailler ensemble, de mettre en commun, moi mes lubies musicales, toutes ces bizarres choses qui me trottent par la tête, et toi ton intelligence et ta science étonnante. Combien tu sais de choses! Je n'ai jamais vu un homme aussi intelligent que toi. Il y a des moments où je suis inquiet. Il me semble que je ne suis pas digne de ton amitié. Tu es si noble et si accompli, et je te suis si reconnaissant d'aimer un être grossier comme moi. Mais non, je viens de le dire, il ne faut point parler de reconnaissance. En amitié, il n'y a ni obligé, ni bienfaiteur. De bienfait, je n'en accepterai pas. Nous sommes égaux puisque nous nous aimons. Qu'il me tarde de te voir. Je n'irai pas te prendre à la maison puisque tu ne le veux pas. Quoiqu'à vrai dire, je ne comprenne pas toutes ces précautions. Mais tu es le plus sage, tu as certainement raison. Un mot seulement, ne parle plus jamais d'argent. Je hais l'argent, le mot et la chose. Si je ne suis pas riche, je le suis toujours assez pour fêter mon ami. Et c'est ma joie de donner tout ce que j'ai pour lui. Ne ferais-tu pas de même? Et si j'en avais besoin, ne me donnerais-tu pas ta fortune entière? Mais cela ne sera jamais. J'ai de bons poings et une bonne tête. Et je saurai toujours gagner le pain que je mange. À dimanche. Mon Dieu, toute une semaine sans te voir. Et il y a 2 jours, je ne te connaissais point. Comment ai-je pu vivre si longtemps sans toi? Le batteur de mesure a essayé de grogner. Mais ne t'en soucie pas plus que moi. Que me font les autres? Je méprise ce qu'ils pensent et ce qu'ils penseront jamais de moi. Il n'y a que toi qui m'importe. Aime-moi bien. Aime-moi comme je t'aime. Je ne puis te dire combien je t'aime. Je suis tien, tien, de l'ongle à la prunelle. À toi pour jamais, Christophe. Christophe se rangea d'attente pendant le reste de la semaine. Il se détournait de son chemin et faisait de longs crochets pour rôder du côté de la maison d'Otto. Non qu'il pensât le voir, mais la vue de sa maison suffisait à le faire pâlir et rougir d'émotion. Le jeudi, il n'y tint plus et envoya une seconde lettre, encore plus exaltée que la première. Otto y répondit avec sentimentalité. Le dimanche vint enfin, et Otto fut exact au rendez-vous. Mais il y avait près d'une heure que Christophe se dévorait d'impatience en l'attendant sur la promenade. Il commençait à se tourmenter de ne pas le voir. Il tremblait qu'Otto fût malade, car il ne supposait pas un instant qu'Otto pût lui manquer de parole. Il répétait tout bas, « Mon Dieu, faites qu'il vienne !» Et il frappait les petits cailloux de l'allée avec une baguette. Il se disait que s'il manquait 3 fois son coup, Otto ne viendrait pas, mais que s'il touchait juste, Otto paraîtrait aussitôt. Et malgré son attention et la facilité de l'épreuve, il venait de manquer son but 3 fois lorsqu'il aperçut Otto qui arrivait de son pas tranquille et posé. Car Otto restait toujours correct, même quand il était le plus ému. Christophe courut à lui et, la gorge sèche, lui dit bonjour. Otto répondit « Bonjour ». Et ils ne trouvèrent plus rien à se dire, sinon que le temps était fort beau et qu'il était 10h05 ou 6, à moins que ce ne fût 10h10, parce que l'horloge du château était toujours en retard. Ils allèrent à la gare et prirent le chemin de fer pour une station voisine qui était un but d'excursion. En route, ils ne parvinrent pas à échanger 10 mots. Ils essayèrent d'y suppléer par des regards éloquents, cela ne réussit pas mieux. Ils avaient beau vouloir se dire ainsi quels amis ils étaient, leurs yeux ne disaient rien du tout. Ils jouaient la comédie. Christophe s'en aperçut avec humiliation. Il ne comprenait pas pourquoi il ne parvenait point à exprimer, ni même à sentir tout ce qui lui remplissait le cœur 1 heure auparavant. Otto ne se rendait peut-être pas compte aussi clairement de cette malchance, parce qu'il était moins sincère et regardait en lui avec plus d'égard pour lui-même. Mais il éprouvait un pareil désappointement. La vérité était que les 2 enfants avaient, depuis 8 jours, en l'absence l'un de l'autre, monté leurs sentiments à un diapason tel qu'il leur était impossible de les y maintenir dans la réalité, et qu'en se retrouvant, leur première impression devait être une déception. Il en fallait rabattre, mais ils ne pouvaient se résoudre à en convenir. Ils errèrent tout le jour dans la campagne, sans réussir à secouer la contrainte maussade qui pesait sur eux. C'était jour de fête. Les auberges et les bois étaient remplis d'une foule de promeneurs, des familles de petits bourgeois qui faisaient du bruit et mangeaient dans tous les coins. Cela ajoutait à leur mauvaise humeur. Ils attribuaient à ces importuns l'impossibilité où ils étaient de retrouver l'abandon de la première promenade. Ils parlaient cependant. Ils se donnaient grand mal pour trouver des sujets de conversation. Ils avaient peur de s'apercevoir qu'ils n'avaient rien à se dire. Otto étalait sa science d'école. Christophe entrait dans des explications techniques sur les œuvres musicales et le jeu du violon. Ils s'assommaient l'un l'autre. Ils s'assommaient eux-mêmes en s'entendant parler. Et ils parlaient toujours, tremblant de s'arrêter. Car ils ouvraient alors des abîmes de silence qui les glaçaient. Otto avait envie de pleurer. Et Christophe fut sur le point de le planter là et de se sauver, tant il avait de honte et d'ennui. Une heure seulement avant de reprendre le train, ils se dégelèrent. Au fond du bois, un chien donnait de la voix, il chassait pour son compte. Christophe proposa de se cacher sur le parcours pour tâcher de voir la bête poursuivie. Ils coururent au milieu des fourrés. Le chien s'éloignait et se rapprochait. Ils allaient à droite, à gauche, avançaient, revenaient sur leurs pas. Les aboiements devenaient plus forts. Le chien s'étranglait d'impatience dans son cri de carnage. Il arrivait vers eux. Christophe et Otto, couchés sur les feuilles mortes, dans l'ornière d'un sentier, attendaient, ne respirant plus. Les aboiements se turent. Le chien avait perdu la piste. On l'entendit japper encore une fois au loin. Puis le silence descendit sur les bois. Plus un bruit. Seul le grouillement mystérieux des millions d'êtres, des insectes et des vers qui rongent sans répit et détruisent la forêt, souffle régulier de la mort qui ne s'arrête jamais. Les enfants écoutaient, et ils ne bougeaient pas. Juste au moment où, découragés, ils se relevaient pour dire « C'est fini, il ne viendra pas », un petit lièvre pointa hors des fourrés. Il venait droit sur eux. Ils le virent en même temps et poussèrent un hurlement de joie. Le lièvre bondit sur place et sauta de côté. Ils le virent plonger dans les taillis, cul par-dessus tête. Le frôlement des feuilles froissées s'effaça comme un sillage sur la surface de l'eau. Bien qu'ils eussent au regret d'avoir crié, cette aventure les mit en joie. Ils se tordaient de rire en pensant au bond effarouché du lièvre, et Christophe l'imita d'une façon grotesque. Otto fit de même. Puis ils se poursuivirent. Otto faisait le lièvre et Christophe le chien. Ils dévalèrent bois et prés, passant à travers les haies et sautant par-dessus les fossés. Un paysan vociféra contre eux parce qu'ils s'étaient lancés au milieu d'un champ de seigle. Ils ne s'arrêtèrent pas. Christophe imitait les aboiements enroués du chien avec une telle perfection que Otto pleurait de rire. Enfin, ils se laissèrent rouler le long d'une pente en criant comme des fous. Quand ils ne purent plus articuler un son, ils s'assirent et se regardèrent avec des yeux rieurs. Ils étaient tout à fait heureux maintenant et satisfaits d'eux-mêmes. C'est qu'ils n'essayaient plus de jouer aux amis héroïques. Ils étaient franchement ce qu'ils étaient, deux enfants. Ils revinrent bras dessous, en chantant des chansons dénuées de sens. Toutefois, au moment de rentrer en ville, ils jugèrent bon de reprendre leur rôle. Et sur le dernier arbre du bois, ils gravèrent leurs initiales en lacets. Mais leur bonne humeur eut raison de la sentimentalité. Et dans le train de retour, ils éclataient de rire chaque fois qu'ils se regardaient. Ils se quittèrent en se persuadant qu'ils avaient passé une journée colossalement ravissante, colossal entzückend, et cette conviction s'affirma dès qu'ils se retrouvèrent seuls. Ils reprirent leur œuvre de construction patiente et ingénieuse, plus que celle des abeilles, car ils parvenaient à façonner avec quelques bribes de souvenirs médiocres une image merveilleuse d'eux-mêmes et de leur amitié. Après s'être idéalisés toute la semaine, ils se revoyaient le dimanche. Et malgré la disproportion qu'il y avait entre la vérité et leur illusion, ils s'habituaient à ne la point remarquer. Ils s'enorgueillissaient d'être amis. Le contraste de leur nature les rapprochait. Christophe ne connaissait rien d'aussi beau que Otto. Ses mains fines, ses jolis cheveux, son teint frais, sa parole timide, la politesse de ses manières et le soin méticuleux de sa mise le ravissaient. Otto était subjugué par la force débordante et l'indépendance de Christophe. Habitué par une hérédité séculaire au respect religieux de toute autorité, il éprouvait une jouissance mêlée de peur à s'associer à un camarade aussi irrévérencieux de nature pour toute règle établie. Il avait un petit frisson de terreur voluptueuse en l'entendant fronder les réputations de la ville et contrefaire impertinemment le grand-duc. Christophe s'apercevait de la fascination qu'il exerçait ainsi sur son ami, et il outrait son humeur agressive. Il sapait, comme un vieux révolutionnaire, les conventions sociales et les lois de l'État. Otto écoutait, scandalisé et ravi. Il s'essayait timidement à se mettre à l'unisson, mais il avait soin de regarder autour de lui si personne ne pouvait entendre. Christophe ne manquait pas, dans leur course, de sauter les barrières d'un champ aussitôt qu'il voyait un écriteau qui le défendait, ou bien il cueillait les fruits par-dessus les murs des propriétés. Otto était dans les transes qu'on ne les surprit, mais ses émotions avaient pour lui une saveur exquise. Et le soir, quand il était rentré, il se croyait un héros. Il admirait craintivement Christophe. Son instinct d'obéissance se trouvait à se satisfaire dans une amitié où il n'avait qu'à acquiescer aux volontés de l'autre. Jamais Christophe ne lui donnait la peine de prendre une décision. Il décidait de tout, décrétait l'emploi des journées, décrétait même l'emploi de la vie, faisant pour l'avenir d'Otto, comme pour le sien, des plans qui ne souffraient point de discussion. Otto approuvait, un peu révolté d'entendre Christophe disposer de sa fortune pour construire plus tard un théâtre de son invention. Mais il ne protestait pas, intimidé par l'accent dominateur de son ami et convaincu par sa conviction que l'argent amassé par M. le Kommerzienrat, Oskar Diener, ne pouvait trouver un plus noble emploi. Christophe n'avait pas l'idée qu'il fît violence à la volonté d'Otto. Il était despote d'instinct et n'imaginait pas que son ami pût vouloir autrement que lui. Si Otto avait exprimé un désir différent du sien, il n'eût hésité à lui sacrifier ses préférences personnelles. Il lui eût sacrifié bien davantage. Il était dévoré du désir de s'exposer pour lui. Il souhaitait passionnément qu'une occasion se présentât de mettre son amitié à l'épreuve. Il espérait, dans ses promenades, rencontrer quelques dangers et se jeter au-devant. Il fut mort avec délices pour Otto. En attendant, il veillait sur lui avec une sollicitude inquiète. Il lui donnait la main dans les mauvais pas comme à une petite fille. Il avait peur qu'il ne fût là, il avait peur qu'il n'eût chaud, il avait peur qu'il n'eût froid. Il enlevait son veston pour le lui jeter sur les épaules quand il s'asseyait sous un arbre. Il lui portait son manteau quand il marchait. Il lui portait lui-même. Il le couvait des yeux comme un amoureux. Et à vrai dire, il était amoureux. Il ne le savait pas, ne sachant pas encore ce que c'était que l'amour. Mais par instant, quand ils étaient ensemble, il était pris d'un trouble étrange, le même qu'il avait étreint, le premier jour de leur amitié, dans le bois de sapin. Des bouffées lui montaient à la face, lui mettaient le sang aux joues. Il avait peur. D'un accord instinctif, les deux enfants s'écartaient craintivement l'un de l'autre, se fuyaient, restaient en arrière, en avant, sur la route. Ils feignaient d'être occupés à chercher les mûres dans les buissons, et ils ne savaient pas ce qui les inquiétait. C'était surtout dans leurs lettres que ces sentiments s'exaltaient. Ils ne risquaient pas d'être contredits par les faits. Rien ne venait gêner leurs illusions, ni les intimider. Ils s'écrivaient maintenant deux ou trois fois par semaine, dans un style d'un lyrisme passionné. À peine s'ils parlaient des événements réels. Ils agitaient de graves problèmes sur un ton apocalyptique qui passait sans transition de l'enthousiasme au désespoir. Il s'appelait « Mon bien, mon espoir, mon aimé, mon moi-même ». Il faisait une consommation effroyable du mot « âme ». Il peignait avec des couleurs tragiques la tristesse de leur sort et s'affligeait de jeter dans l'existence de leur ami le trouble de leur destinée. « Je t'en veux, mon amour, écrivait Christophe, de la peine que je te cause. Je ne puis supporter que tu souffres. Il ne le faut pas, je ne le veux pas. » Il soulignait les mots d'un trait qui crevait le papier. « Si tu souffres, où trouverai-je la force de vivre? Je n'ai de bonheur qu'en toi. Oh, sois heureux. Tout le mal, je le prends joyeusement sur moi. Pense à moi. Aime-moi. J'ai besoin qu'on m'aime. Il me vient de ton amour une chaleur qui me rend la vie. Si tu savais comme je grelotte, il fait hiver et vent cuisant dans mon cœur. J'embrasse ton âme. » « Ma pensée baise la tienne, » répliquait Otto. « Je te prends la tête entre mes mains, » ripostait Christophe, « et ce que je n'ai point fait et ne ferai point des lèvres, je le fais de tout mon être. Je t'embrasse comme je t'aime. Mesure. » Otto feignait de douter. « M'aimes-tu autant que je t'aime ?»« Oh Dieu !» s'écriait Christophe. « Non pas autant, mais 10, mais 100, mais 1000 fois davantage. Quoi ? Est-ce que tu ne le sens pas ? Que veux-tu que je fasse qui te remue le cœur ?»« Quelle belle amitié que la nôtre !» soupirait Otto. En fut-il jamais une semblable dans l'histoire ? C'est doux et frais comme un rêve, pourvu qu'il ne passe point. Si tu allais ne plus m'aimer. Comme tu es stupide, mon aimé, répliquait Christophe. Pardonne, mais ta crainte pusillanime m'indigne. Comment peux-tu me demander si je puis cesser de t'aimer? Vivre pour moi, c'est t'aimer. La mort ne peut rien contre mon amour. Toi-même, tu ne pourrais rien si tu voulais le détruire. Quand tu me trahirais, quand tu me déchirerais le cœur, je mourrais en te bénissant de l'amour que tu m'inspires. Cesse donc, une fois pour toutes, de te troubler et de me chagriner par ces lâches inquiétudes. » Mais une semaine après, c'était lui qui écrivait « Voici 3 jours entiers que je n'entends plus aucune parole sortir de ta bouche. Je tremble. M'oublierais-tu ? Mon sang se glace à cette pensée. Oui, sans doute. L'autre jour, j'avais déjà remarqué ta froideur envers moi. Tu ne m'aimes plus. Tu penses à me quitter. Écoute, si tu m'oublies, si tu me trahis jamais, je te tue comme un chien. Tu m'outrages, mon cher cœur, répondait Otto. Tu m'arraches des larmes, je ne le mérite point. Mais tu peux tout te permettre. Tu as pris sur moi des droits tels que, me briserais-tu l'âme, un éclat en vivrait toujours pour t'aimer. Puissance céleste, s'écriait Christophe. J'ai fait pleurer mon ami. Injurie-moi, bats-moi, foule-moi aux pieds. Je suis un misérable. Je ne mérite pas ton amour. Ils avaient des façons spéciales d'écrire leur adresse sur la lettre, de poser le timbre-poste, renversé, obliquement, dans un coin de l'enveloppe en bas et à droite, pour distinguer leurs lettres de celles qu'ils écrivaient aux indifférents. Ces secrets puérils avaient pour eux le charme de doux mystères d'amour.